Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux, Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, du verset 8 jusqu'au verset 17. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler toujours de ce deuxième point qui concerne les six fondements de la foi. Et aujourd'hui, déjà le cinquième jour concernant la foi, nous allons parler aujourd'hui de la foi d'Abraham. En effet, quand on parle de la foi, le premier nom qui saute à l'esprit ou qui vient à notre esprit, c'est Abraham. Parce qu'il est considéré comme le père de la foi. Pourquoi est-il considéré comme le père de la foi? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui dans ce message que nous allons partager, que nous partageons ce soir. Je vais lire Hébreux chapitre 11, versets 8 à 17. Il est écrit: C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est au bord de la mer. Et qu'on ne peut compter. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui partent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. La Bible dit que c'est par la foi, en tout cas par rapport à Abraham, nous aurons plusieurs points concernant la foi. Donc si tu notes, je préfère que tu écoutes seulement. Comme ça, s'il faut noter, tu pourras peut-être le faire après en réécoutant pour plus de compréhension. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Premièrement, l'homme de foi ne cherche pas à comprendre avant d'exécuter. Il fait d'abord et il comprend après. Nous avons défini la foi comme une ferme assurance. Excuse-moi. La foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et que si la foi consiste à croire à l'existence de Dieu et à chercher Dieu, quand Dieu nous dit quelque chose, connaissant son cœur plein d'amour et ses projets merveilleux qu'il a pour nous, nous n'aurons pas de temps pour réfléchir d'abord deux fois quand Dieu nous appelle ou quand Dieu nous dit de faire quelque chose. Abraham était en Mésopotamie, en Ur, en Chaldée, quand Dieu l'appela. Et Dieu lui dit, va, quitte le pays de ton père, va dans le lieu que je te montrerai. Genèse chapitre 12, verset 1. Abraham est parti sans savoir où il allait. Donc la foi consiste à obéir à Dieu sans connaître le futur, sans mesurer les conséquences, mais tout en faisant confiance au Dieu qui nous a parlé, sachant qu'il est le Dieu d'amour et que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Bible dit, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans une terre comme étant un étranger, une terre étrangère habitant sous des tentes. La foi par rapport à Abraham nous enseigne aussi qu'étant sur terre, nous n'avons pas à construire des maisons en matériaux solides, c'est-à-dire ne pas considérer la terre comme notre lieu, notre terre d'héritage, mais comme un lieu de pèlerinage. Nous sommes des pèlerins sur terre. C'est pourquoi Abraham ne construisit pas des maisons en matériaux durables, mais Abraham vivait sous des tentes. En Israël, parmi les sept fêtes, il y a une fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Pendant cette fête, les enfants d'Israël restent pendant une semaine à dormir sous des tentes pour se rappeler que leur père vivait sous des tentes. Or, l'apôtre Paul dit ceci, que nous étant sur terre, nous vivons dans cette tente, mais nous avons une demeure qui est céleste. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand on parle de construire une maison en matériaux solides, je ne suis pas en train de parler de la maison physique, mais je suis en train de parler de notre vie. La vie que nous avons sur terre, c'est une vie qui ne dure que peu de temps. Selon Psaume chapitre 90, du verset 7, je crois jusqu'au verset 9 ou 10 là-bas, la Bible dit que la vie de l'homme ne dure que peu de temps. En moyenne, ce sont 10 ans, mais 80 ans pour les plus vigoureux. Et Moïse va dire au verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Tous ceux qui ont vu Dieu, tous ceux qui ont la foi, sont des hommes qui vivent sur terre comme des pèlerins. Ils savent que tout ce qui touche sur terre, ils vont les laisser. Ils sont en fait de passage. Si tu vas dans une ville en pèlerinage, tu ne peux pas commencer à acheter des maisons, des voitures, ou encore à bâtir des cités, à bâtir des bâtisses là-bas. Parce que tu sais que tu es de passage. Tu vas seulement acheter, avoir ce qui va te permettre de vivre pour quelques jours parce que toi, tu es de passage. C'est pourquoi Abraham, lorsqu'il est venu s'établir dans cette terre, bien que ce soit la terre que Dieu lui avait promis, Abraham habitait sous des tentes. Donc la foi consiste à considérer le corps physique comme une tente. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous investir longtemps ou investir toute notre vie pour la construction de ce corps. Parce que ce corps est poussière et ça va retourner à la poussière. Mais nous avons une demeure qui est céleste. Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 3, ne vous inquiétez pas. Je vais vous préparer une maison. Il y a plusieurs maisons dans la maison de plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai préparé la place, je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où moi je suis. Ensuite, le troisième point, verset 10, la Bible dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ici, il s'agit de la cité de Dieu. J'ai déjà parlé de ça en parlant de Jésus-Christ qui a dit dans Jean chapitre 14. Bon, lisons ça, c'est toujours important. L'évangile selon Jean. Jean chapitre 14, j'ai cité, mais c'est toujours bien de lire. Jean chapitre 14, du verset 1er jusqu'au verset 3. Il est écrit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé là une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc vous voyez, ce que Dieu nous demande, c'est d'être prêt pour sa venue, pour le retour de Jésus-Christ. Et il nous prépare cette demeure. Et lorsqu'il aura préparé cette demeure, il nous prendra afin que nous soyons là où il est. Or, le danger, c'est lorsque nous considérons la terre comme notre demeure. Et sur terre, notre vie ne dure que peu de temps. Tout ce que nous touchons, nous allons les laisser. Job a compris cela. Dans Job chapitre 1, versets 20 à 21, Job dit: Nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je rentrerai dans le sein de la terre. Tout ce que nous touchons sur terre, ces choses sont appelées à rester. Nous sommes appelés à laisser toutes ces choses. Voilà pourquoi nous devons d'autant plus nous impliquer dans la construction de notre vraie demeure et non de ce corps-ci. Et non de cette chair, parce que cette chair peut être même frappée par la maladie. Et tout ce que nous gagnons dans la chair, comme a dit Jésus, bâtissez-vous des trésors dans le ciel, où la rouille ne peut détruire, ni le voleur ne peut voler. Les trésors terrestres, on peut te détourner ou anarquer ton compte bancaire. On peut te voler de l'argent. On peut te cambrioler, te voler de l'argent. Et on peut même te tuer. Mais la demeure qui se trouve en Dieu, là-bas, personne ne peut toucher à cela parce que ça se trouve en sécurité. Voilà comment nous devons nous investir des choses d'en haut. Je vais continuer. Ensuite, on parle de Sarah au verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi d'Abraham, souvent, lorsqu'on parle de la foi d'Abraham, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la naissance d'Isaac. Parce que Abraham avait cru. Pourquoi? Abraham a eu Isaac quand il avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Donc, en quelque sorte, par rapport à la science, elle était doublement ménopausée. Parce qu'une femme en moyenne à 45 ans, elle rentre en ménopause. Et là encore, l'âge de la ménopause a été réduit à au moins 40 ans. Certaines femmes, dès 40 ans, elles rentrent en ménopause. Mais Sarah avait 90 ans. Et c'est à 90 ans que Dieu avait donné un fils à Abraham. Quel était le secret de la foi d'Abraham? Cela nous est révélé dans l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul a bien expliqué ça dans Romains chapitre 4, à partir du verset. Romains chapitre 4, à partir du verset 16. On va lire du verset 16 jusqu'au verset 22. C'est pourquoi les héritiers sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu, en ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce que nous constatons? Et verset 22 ajoute pour dire, c'est pour cela qu'il fut imputé à justice. Qu'est-ce que nous constatons? Quand Dieu a dit à Abraham qu'il donnerait un enfant à Abraham et Sarah, en temps normal, selon la science, ils étaient incapables d'avoir des enfants. Mais la Bible dit, au lieu de considérer son corps qui avait faibli et être découragé, mais Abraham fut fortifié par la foi. En faisant quoi? En donnant gloire à Dieu. C'est très important. L'homme de foi n'attend pas l'accomplissement des promesses pour glorifier Dieu. Si Dieu te dit quelque chose, si Dieu te dit ce qu'il va faire, même si toi tu vois le contraire, tu commences à glorifier déjà Dieu parce que tu sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. La différence entre Abraham et le juge qu'on appelait Gédéon, c'est quoi? Lorsque Dieu, l'ange de l'Éternel, apparaît à Gédéon pour lui dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce que Gédéon va dire à l'ange de l'Éternel? Gédéon commence d'abord par expliquer l'état de la nation. Après, il parle de l'état de sa famille et ensuite, il parle de sa propre vie. Il explique que, en ce qui concerne la dimension nationale, il dit Israël est battu par ses ennemis. En ce qui concerne ma famille, il dit ma famille est la plus pauvre en Manassé. Ensuite, par rapport à lui, il dit je suis le plus petit de ma famille. Pour dire que si on pouvait considérer le niveau de l'État, il ne pouvait pas être vaillant héros, le niveau de la famille, on devait choisir une autre famille. Et s'il fallait choisir quelqu'un, ne fût-ce que dans sa famille, ce n'est pas lui qu'on devait prendre parce que lui est le plus petit de sa famille. Mais Dieu avait dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et il va ajouter quelque chose en disant à l'ange de l'Éternel. Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, avec quoi délivrerai-je Israël? Parce que Gédéon certainement avait lu l'histoire de Moïse. Moïse avait délivré le peuple d'Israël de l'Égypte parce qu'il avait un bâton. Lui croit que Dieu, pour délivrer ou utiliser une personne, il faut que Dieu lui donne quelque chose en main, comme un bâton. Il ne sait pas que Dieu a plusieurs façons d'agir. Si au temps de Moïse, il avait besoin d'un bâton pour libérer le peuple, mais au temps de David, pour vaincre Goliath, ce n'était pas un bâton, c'était une pierre. Dieu a plusieurs façons de faire les choses. Mais il faut être connecté à Dieu pour connaître et comprendre ce que Dieu est en train de faire au temps précis. Dieu a plusieurs façons de faire, mais il faut être connecté à lui pour savoir comment agir avec lui. Gédéon n'avait pas cru, mais Abraham n'a pas considéré son état. Ce que Gédéon ne savait pas, c'est que ce qui avait libéré les enfants d'Israël, ce n'était pas le bâton, mais c'était la présence de Dieu qui était avec Moïse. Donc notre réussite, la réussite dans ce que Dieu nous demande de faire, ou dans ce que Dieu dit qu'il va faire avec nous, ne dépend pas de nos capacités, ne dépend pas de notre force, de notre capacité financière, de notre niveau social, notre niveau intellectuel, mais dépend de Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, même quand cela paraît impossible, il faut le faire. Et si Dieu dit qu'il va faire quelque chose avec toi, même si cela paraît impossible avec toi, dis simplement Amen et Dieu le fera. C'est très important. Dieu ne t'a pas. D'abord, tu n'as pas demandé à ce que Dieu te donne ses songes ou des visions te montrant dans des entreprises, te montrant, par exemple, dans une position, dans une position quelconque, ou encore te montrant obtenir telle ou telle chose. Mais si Dieu te l'a montré d'avance pour dire que voici ce que je veux faire avec toi, toi dis seulement Amen. C'est très important. Toi ne calcule pas. C'est vrai que l'homme a sa part de responsabilité, mais toi ne calcule pas. Ne regarde pas ce dont tu es capable de faire. Ne regarde pas ce que tu possèdes maintenant. Mais regarde à ce que Dieu est capable de faire et à qui Dieu est. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et par rapport à Sarah, Sarah n'a pas considéré son état, mais Sarah a considéré que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est comme ça que finalement, Abraham a pu avoir son fils Isaac. Et concernant la tentation toujours, plutôt concernant la foi d'Abraham, Abraham devait être tenté. Pas tenté parce que Dieu ne tente personne, mais Abraham devait être éprouvé. Il devait être éprouvé parce que Dieu doit éprouver notre foi qui est plus précieuse que l'or, doit passer par le feu de l'épreuve afin de briller. Et quelle fut l'épreuve d'Abraham? C'était d'offrir Isaac en holocauste. Il y avait plusieurs sacrifices en Israël, mais l'holocauste signifie tuer l'animal et brûler de telle sorte que rien ne reste. Et c'est ce que Dieu avait demandé à Abraham. Pourquoi? Parce qu'après avoir donné Isaac à Abraham, Isaac commençait à devenir l'idole d'Abraham. Abraham commençait à aimer Isaac plus que Dieu. Alors Dieu devait couper cette idole, Dieu devait détacher cela du cœur d'Abraham. Il demanda Isaac en sacrifice. Voici le danger que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Quelquefois, lorsque Dieu nous bénit ou lorsque Dieu nous donne quelque chose, on devient plus attaché à ce que Dieu nous a donné qu'à Dieu lui-même. Dieu peut te donner un travail et le travail devenir une occasion de chute pour toi. Dieu peut te donner un mariage et que le mariage devienne une occasion de chute pour toi. Dieu peut te donner un business, des affaires, l'argent. L'argent peut devenir une occasion de chute pour toi. Mais que rien, en tant que fils de Dieu, en tant qu'homme de foi, rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre vie. Isaac allait prendre la place de Dieu dans la vie d'Abraham. Et Dieu demanda Isaac en sacrifice. Alors que Dieu avait déjà fait des promesses à Isaac, à Abraham par rapport à Isaac, en disant que c'est par cette postérité que je vais me multiplier en toi, Abraham. Mais le même Isaac fut demandé par Dieu en sacrifice. Isaac n'a pas dit non, je ne veux pas donner. Mais Isaac, plutôt, Abraham n'a pas dit non, il n'a pas refusé. Il a dit même si il y a des promesses, même si Dieu m'a fait plusieurs promesses concernant ce fils, puisque c'est Dieu qui le demande, c'est Dieu qui me l'a donné, alors moi je vais donner. C'est très important. Quelquefois lorsque Dieu nous donne des choses, mais quelquefois lorsqu'il nous demande de libérer ces choses, quelquefois on commence à cogiter. Ah, si je donne tout ça, comment est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu oublies même que c'est avant que tu aies ces choses, tu vivais. Tu commences à cogiter. Ah Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Tu me demandes de tout donner, comme le témoignage que j'avais donné, que j'étais fait la fois passée, où il me restait, voilà, il me restait 15 000 francs CFA, c'était 1 500 roupies, disons autour de combien? 30 dollars. Autour de 30 dollars que j'avais dans la poche, tout ce que nous avions avec ma femme pour vivre. Et le Seigneur me dit, prends ça, va donner ça à X. Mais comment est-ce que je vais faire? Je me suis posé la question, mais comment est-ce que je vais faire? Mais puisque je savais que c'est Dieu qui m'avait demandé de le faire, je n'ai pas réfléchi, j'ai donné. Et le Seigneur s'était occupé de moi. Je n'ai manqué de rien. Très souvent, nous pensons que nous n'avons rien alors que nous avons quelquefois beaucoup, plus que nous pouvons penser et imaginer. Parce que Dieu est capable de multiplier des tonnes et des milliards de litres avec le peu d'huile de la veuve. Mais nous devons faire confiance au Seigneur. Si Dieu te dit quelque chose, ne réfléchis pas. Fais ce que Dieu te dit de faire et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit au verset 17 de Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Tu vois, il avait reçu les promesses, mais c'est par la foi qu'il a offert Isaac. Dieu veut voir notre cœur, il veut nous éprouver pour voir si nous avons un cœur partagé et ou si nous avons des choses qui ont pris sa place dans notre cœur. Et voilà pourquoi Dieu coupera toujours toutes ses idoles. Les habits peuvent devenir ton idole. Tellement que tu aimes un habit. Alors l'habit a pris la place de Dieu, a créé de l'orgueil dans ton cœur. Parce que tu sais que c'est cher. Ah, ma montre là, j'ai acheté ça 1 million. Quand tu portes cette montre, tu veux que tout le monde voit ça. Ah, ma chaussure là. En tout cas, j'ai acheté ça à beaucoup d'argent. Comme c'est la marque qui attire les regards. En tout cas, quand je vais mettre ça, tout le monde aura les yeux sur moi. Alors on devient nous-mêmes notre propre idole. On commence à chercher l'adoration ou l'admiration des hommes. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent prendre la place de Dieu ou nous conduire dans l'orgueil. Mais la Bible dit Dieu résiste aux orgueils. C'est pourquoi l'homme de foi doit toujours être humble, dépendre de Dieu et être prêt à tout sacrifier à Dieu. Ça peut être ton temps, ça peut être l'argent, ça peut être même ton sommeil. Quand Dieu te dit réveille-toi pour prier, tu pries. L'homme de foi doit être prêt à sacrifier sa nourriture. Il y a des fois où tu veux manger comme ça. Un jour où même c'est ton anniversaire, Dieu te dit ce jour-là, tu jeûnes. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors que tu es invité au restaurant. Tu vas faire plaisir aux hommes ou tu vas faire plaisir à Dieu. C'est là que Dieu va nous tester pour voir si il est le tout de notre vie. Car il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si nous aimons Dieu de la sorte, alors nous avons vraiment la foi et nous allons toujours et toujours glorifier Dieu dans notre vie. Et Abraham fut, la Bible dit, sa foi lui fut imputée à justice. Il a été considéré comme juste à cause de sa foi. Mais la foi d'Abraham avait deux dimensions. La foi doit être, la foi doit être suivie par des œuvres. La Bible dit, montre-moi la foi sans œuvre. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Car la foi sans œuvre est une foi morte. La foi n'est pas passive. La foi est active. Lorsqu'on a la foi, on doit montrer les œuvres de la foi et marcher comme les hommes qui ont la foi. Celui qui a la foi croit qu'il a déjà obtenu, il commencera à vivre comme s'il avait déjà obtenu la chose. Je prends un exemple, une femme stérile, une femme qui n'arrive pas à enfanter. Mais Dieu lui dit, cette année, si je te donne un enfant, c'est comme le cas d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant depuis longtemps. Mais l'ange a dit à Abraham, à cette année, cette époque de la même de l'année prochaine, Sarah sera enceinte. Si Abraham est un homme de foi, c'est sûr qu'Abraham avait déjà commencé, même si Sarah n'était pas enceinte, à préparer déjà la layette, parce qu'il sait que ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Donc la foi doit marcher aussi avec la promesse que nous avons reçue. Si tu as reçu la promesse, tu sais que celui qui a fait la promesse est fidèle, alors il faut vivre en fonction de cette promesse. Tu as par exemple reçu la foi, et plutôt la promesse de connaître l'enlèvement de l'Église, mais tu vas vivre la sainteté. Commencez déjà à imaginer comment sera la vie là-bas avec Christ. Tu vas vivre en fonction de ça. Marcher dans la sainteté tout en étant dans l'amour. Marcher dans les principes éternels, les principes spirituels qui gouvernent le royaume des cieux. C'est ça la foi. Vivre comme les gens, les pèlerins qui savent qu'ils vont quitter. C'est ça la foi. C'est pas que tu dis tu as reçu la promesse de l'enlèvement, tu crois que tu feras partie du royaume des cieux, mais tu vis pleinement comme celui qui est terrestre, dans le péché, dans l'injustice, contrairement aux lois du royaume des cieux. Cela prouve que tu n'as pas la foi. Dieu t'a dit qu'il va te donner, par exemple, une maison. Alors, par la foi, tu commences déjà à chercher la maquette. Voici comment sera ma maison, parce que Dieu m'a dit. Dieu t'a dit que tu auras un bureau, tu auras un business, tu auras ton propre business ou je ne sais pas, ta propre compagnie. Mais tu commences déjà à imaginer comment sera les bureaux. Tu fais déjà comment on appelle ça? Tu sais de faire déjà le plan de l'organisation. Tu comptes déjà le nombre de travailleurs. Tu prévois même déjà les salaires. Celui-ci touchera ceci. C'est comme ça l'homme de foi. L'homme de foi fonctionne en fonction, tu m'excuses de la tautologie. Mais l'homme de foi agit en fonction de la vision qu'il voit, en fonction de ce que Dieu lui a dit. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne regarde pas à ses moyens, mais il regarde aux moyens qui sont en Dieu, à ce que Dieu est capable de faire. Bon, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous continuerons prochainement, si le Seigneur le permet. Mais que Dieu nous donne vraiment d'avoir la foi. Si l'homme a cinq sens naturels qui lui met en contact avec la nature, alors il y a un sixième sens qui est spirituel, la foi, qui nous connecte à la pensée de Dieu, qui nous connecte au cœur de Dieu et qui nous donne la capacité de voir des choses que Dieu a préparées pour nous. Que Dieu nous ouvre les yeux. Amen.